Cassis FM.
Bonjour à tous, on va parler d'un sujet d'actualité, l'écologie, et une expression qui est devenue à la mode, la sobriété énergétique. Jusqu'au plus haut sommet de l'État, aujourd'hui, on nous encourage à être sobre en consommation d'énergie. Aujourd'hui, avec la hausse du prix de l'électricité, des carburants et du gaz, un sujet tant économique qu'écologique, un sujet qui sera évoqué le 29 septembre lors de la REF 21, la rencontre des entrepreneurs de France de Côte d'Or. Pour en parler, je suis avec Vincent Gaffard. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes directeur régional de Total Énergie. Je vous passe la parole dans un instant. François Gonzi, bonjour.
Bonjour.
Directeur commercial régional chez EDF. Et puis enfin, Yannick Louvet, bonjour à vous.
Bonjour.
Donc vous travaillez dans un secteur un peu différent puisqu'il s'agit de la société Atoll Conseil et Développement. Vous êtes directeur des opérations chez Atoll. Pas Atoll les opticiens, hein, c'est Atoll, c'est du conseil
Atoll en... Atoll le numérique, ouais.
Atoll numérique, voilà. Pour commencer, je me tourne vers vous, Vincent Gaffard. Donc vous êtes directeur régional de Total Énergie. La forte hausse du prix des carburants et du gaz, je le disais, ça fait la une de l'actualité en ce moment. C'est devenu un sujet épineux pour le gouvernement. Quelle position tient la compagnie Total Énergie aujourd'hui sur ce sujet?
Alors nous, ce qu'on essaye de faire dans un premier temps, c'est d'accompagner, on va dire, de gérer la crise. Et on voit qu'il y a un vrai impact, notamment sur le pouvoir d'achat. Donc je pense que vous l'avez vu, il y a eu plusieurs opérations, notamment de baisse de prix à la pompe. Mmh. La plus importante est une opération qui est en cours depuis le 1er septembre.
Depuis le 1er septembre, ouais.
20 centimes de réduction par litre d'essence.
En plus de la réduction de 30 centimes imposée par le gouvernement.
Tout à fait. Mmh. Donc ça permet de cumuler une réduction globale de 50 centimes par litre. Par ailleurs aussi, évidemment, on fait des efforts sur nos offres gaz et électricité. Aujourd'hui, elles sont indexées sur ce qu'on appelle les tarifs régulés de vente, avec même une remise sur ces tarifs. Donc, ce qui ouvre nos clients aussi à la protection du bouclier tarifaire qui avait été décidé par le gouvernement depuis l'année 2022. Donc ça, c'est les actions de court terme. Après, il faut pas perdre de vue aussi les enjeux de moyen et long terme. C'est-à-dire que, par exemple, on a annoncé le projet d'unité flottante de regazéification du Havre. Là, l'objectif, c'est d'être capable de compenser les pertes d'importation de gaz russe dès l'automne 2023. Donc, par notamment des importations de ce qu'on appelle du gaz naturel liquéfié. Après, il faut continuer aussi à agir sur la demande, en fait, c'est-à-dire faire en sorte que nos clients consomment moins pour essayer de réduire la tension entre l'offre et la demande.
Ouais. Et avec cette hausse du prix de l'énergie, les questions climatiques, on parle de plus en plus d'efficacité, de sobriété énergétique, hein, j'en parlais dans mon introduction. On incite les collectivités, les entreprises et les particuliers à optimiser leur consommation en gaz. C'est quelque chose que vous encouragez, justement, vous le disiez à l'instant, vous encouragez vos clients à être économes. De plus en plus.
Oui, alors peut-être
c'est
juste
la politique de la maison.
Oui, oui. Bien sûr, hein, comme tout énergéticien. Ensuite, peut-être un point d'éclairage. Sobriété, c'est consommer moins. Efficacité, c'est consommer mieux, valoriser. Donc, on agit sur les deux leviers. Aujourd'hui, est-ce que nous encourageons nos clients à être plus économes? Oui, tout à fait. Nous avons des services même d'accompagnement de nos clients, notamment particuliers. C'est-à-dire que on va les aider à suivre leur consommation, leur donner des conseils. Aujourd'hui, on a déjà un retour d'expérience. On sait que...
Ça passe par des mails, des appels.
Exactement. Une application sur laquelle le client peut suivre l'évolution de leur consommation. On va leur donner des conseils, hein, les conseils que vous avez entendus dans la presse ces derniers temps, la baisse de la consigne du chauffage, couvrir sa poêle quand on fait la cuisine, etc. Et donc là, nous, ce qu'on a déjà constaté, c'est qu'on atteint 13% d'économie d'énergie pour les clients qui utilisent le service. Bon, donc on est complètement en ligne en fait avec les annonces gouvernementales, notamment de réduction de 10%. Et ensuite, on a un cabinet qui est spécialisé, qui s'appelle Greenflex, qui lui accompagne les collectivités et les entreprises sur ce qu'on appelle globalement leur trajectoire bas carbone. Donc il s'agit à la fois d'économiser de l'énergie et de faire en sorte que cette énergie soit de plus en plus décarbonée.
Entendu. François Gonzi, ce que disait à l'instant Vincent Gaffard, ça concerne évidemment EDF. Hein, cette question de la sobriété énergétique, elle est centrale pour le groupe EDF. Moi-même récemment, j'ai reçu un mail d'EDF qui m'incite à être plus, enfin qui m'explique comment être plus autonome, plus économe.
Écoutez, c'est parfait. Ça veut dire que vous êtes client chez nous. Déjà, je vous félicite.
C'est central pour le groupe.
Elle est centrale. Alors c'est central depuis longtemps. Évidemment, ça prend une dimension nouvelle et supplémentaire puisqu'on vit
le contexte actuel.
Vous l'avez dit au début, hein, une triple crise, une crise de la disponibilité du gaz, de l'électricité, une crise des prix. Donc c'est particulièrement central en ce moment, mais c'est ancien parce que c'est, on va dire, être sobre et moins consommer ou mieux consommer son énergie. Ça fait aussi, c'est aussi un des outils principaux de la décarbonation. Et ça, bon, c'est la raison d'être du groupe. Donc ça fait très longtemps qu'on tire cette dimension-là. D'ailleurs, le groupe EDF, globalement, c'est pas forcément très bien connu, hein, mais est le premier acteur en France et on dira un des premiers acteurs en Europe pour ce qui est de l'efficacité énergétique pour les entreprises.
Ouais.
Si je dois donner un exemple, hein, on est en Bourgogne quand même.
Ouais.
En ce moment, tout le monde fait des économies sur la consommation de moutarde.
C'est vrai.
Et ben nous, on accompagne
l'autre pénurie du moment.
L'autre pénurie du moment, mais donc nous, on accompagne par exemple des industriels de la moutarde qui en Bourgogne pour mieux consommer ça depuis des années.
Entendu. Le groupe EDF a réaffirmé récemment sa volonté d'être pour un avenir neutre en carbone. Ça constitue une évolution de votre stratégie, encore une fois, une nouvelle.
Alors c'est pas une évolution, c'est plutôt une affirmation puisqu'on a intégré ça dans
la continuité
de l'entreprise. C'est une continuité hein, puisqu'on est historiquement le plus grand producteur d'énergie décarbonée du monde, un des premiers producteurs d'énergie renouvelable du monde. Quand je dis un des premiers, c'est on va dire à égalité avec un autre qui est en Norvège. Donc c'est plutôt une continuité. Ce qui est plus on va dire un renouveau et ce qu'on veut affirmer, c'est que autant c'est quelque chose qui est très connu sur nos moyens de production, c'est-à-dire notre EDF en tant qu'industriel qui produit de l'énergie. Autant ça ne suffit pas pour préparer le changement climatique, ça n'est qu'un axe. Et le deuxième axe qu'il faut absolument qu'on porte et qu'on intensifie, c'est décarboner ce qui se passe chez nos clients. Alors ça, encore une fois, c'est douloureux parce qu'on vit une crise à l'heure actuelle, mais c'est le moment où on peut porter ça, on va dire, il y a une prise de conscience aussi des consommations chez nos clients. C'est vrai simplement déjà en prenant conscience de ce qu'on consomme au jour le jour, hein, mais c'est vrai aussi en décarbonant petit à petit. L'exemple le plus classique chez un particulier, hein, c'est de transformer des chaudières fuel ou gaz en pompe à chaleur. Donc ça, c'est un exemple très simple et avec de l'investissement. Très simple, j'exagère peut-être un peu. Ça demande un investissement et un effort, mais c'est une manière de décarboner ses consommations
et
à la maison.
Et justement, alors c'est la question que j'allais vous poser. Comment est-ce que vous accompagnez vos clients et les entreprises, notamment pour être plus sobres en énergie? Avec Vincent Gaffard, on parlait d'appels ou mails auprès des clients particuliers pour être plus sobres. Auprès des entreprises, vous faites comment?
Alors, dans la suite de ce que disait Monsieur Gaffard, c'est finalement il y a toujours trois niveaux. Hein. Il y a un premier niveau qui est prendre conscience de ce qu'on consomme. Et ça, c'est vrai pour les particuliers comme pour les entreprises. Tout le monde n'est pas encore forcément très averti. Et c'est vrai vraiment autant pour les particuliers que les entreprises. Donc c'est d'abord s'informer. Donc c'est amener pour les particuliers un certain nombre d'outils, les particuliers et les entreprises, d'outils d'analyse de sa consommation. Ça c'est le premier niveau. Et vous savez, c'est comme quand on fait un régime. Hein. La première étape, c'est que quand on se pèse sur une balance, déjà, on a perdu du poids. C'est vrai, hein, c'est prouvé. Ça s'appelle du nudge en sociologie.
Ah oui.
C'est juste se peser permet de perdre du poids de manière presque naturelle. Le deuxième niveau, c'est d'avoir du conseil. On donne du conseil pour dire finalement c'est quoi la comparaison entre les consommations sur tel usage et ce que vous pourriez faire de mieux. De mieux, c'est-à-dire en consommant au bon moment ou en investissant pour mieux consommer. La troisième partie, c'est vraiment l'accompagnement à l'investissement. Alors, je citais tout à l'heure un industriel de la moutarde, mais c'est vraiment ça. Donc, on va chez un industriel, on analyse exactement ses consommations et on va chercher dans sa production de chaleur, de froid, etc., toutes les solutions technologiques au dernier niveau, au bon niveau, pour baisser sa consommation. Donc, les trois niveaux, s'informer, conseiller, investir. C'est les trois mènent de la sobriété, vous disiez, et les trois mènent de la valeur. C'est vrai pour les particuliers, c'est vrai pour les entreprises.
Pour les entreprises, pour les deux. François Gonzi, vous restez avec nous. Yannick Louvet, donc je me tourne à présent vers vous. Donc vous, dans un secteur un petit peu différent, chez Atoll Conseil et Développement, vous aidez à la transformation numérique des entreprises. Pour autant, ce sujet de l'écologie et de la sobriété énergétique, ça vous concerne aussi évidemment. Quelles actions, quels leviers vertueux vous pouvez actionner, vous, chez vos clients?
Alors nous, on agit sur deux leviers. Hein, ça nous concerne parce que, fatalement, on fait de la transformation numérique. Alors qui dit transformation numérique, c'est-à-dire qu'on part d'un processus physique et puis on va le transformer dans une solution numérique. Donc à ce moment-là, cette transformation-là, elle peut amener un gain énergétique par rapport à la solution physique. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est comment on va faire cette transformation. Au moment de réfléchir et de faire de la conception là de cette transformation-là, on va avoir plusieurs tropismes, en fait, dans la solution qu'on va mettre en place.
Plusieurs tropismes.
Plusieurs facettes, si vous préférez. On va choisir une facette ergonomique, une facette sécuritaire, et on peut choisir une facette d'éco-conception. C'est-à-dire qu'on va raisonner tout le système, toute la plateforme numérique qu'on va mettre en place, on va la raisonner au regard de son efficience énergétique. Donc on va réfléchir au processus physique, on va le mettre à plat, la plupart du temps on va se rendre compte qu'on va pouvoir le simplifier parce que le processus physique il vient d'une longue suite souvent de processus qui sont un peu sédimentés. Donc quand on le numérise, c'est le moment aussi de le remettre à plat.
Vous pourriez donner un exemple concret, processus physique, c'est-à-dire quand on...
Processus physique, par exemple là pour un grand réseau pour lequel je peux pas donner le nom là, mais où on avait des intervenants qui devaient réaliser des visites, des inspections dans ce réseau-là. C'est un réseau visitable, mais c'est un réseau visitable un peu critique quoi. On avait toute une sédimentation de règles métiers qui faisait en sorte que pour faire une visite sur place, il fallait faire des prévisites, il fallait faire tout un tas, 5-6 visites en fait, pour permettre de faire la visite finale qui donne l'accréditation. En le transformant numériquement, c'est-à-dire en faisant en sorte que la visite elle soit virtuelle, on s'est rendu compte que ces prévisites-là pouvaient être faites en une seule et même visite. Et donc on a gagné du temps, ça nous a permis de pas faire venir les gens 5 fois de suite. Et en même temps, on a réalisé tout ça en une seule fois et numériquement. Donc il y a plus de visite sur place, tout est numérique. Donc là, voilà, on a un gain, on a un processus numérique qui propose une meilleure gestion de l'énergie que le processus physique.
Que les déplacements.
Et en le réalisant, alors ça c'est le premier levier. Le deuxième levier c'est l'éco-conception, c'est-à-dire qu'en le réalisant, du coup on a fait le choix de réfléchir à l'efficience énergétique. Et puis il y a eu des parties pris qui nous ont obligés à faire tel ou tel processus numérique, telle ou telle application. Donc il y a des choix par exemple d'hébergement, il y a des choix d'ergonomie, il y a des choix. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que du coup c'est très technique. Mais on a fait tout un ensemble de choix qui nous ont permis de réaliser une application moins coûteuse en énergie que si on n'y avait pas pensé. C'est le principe de l'éco-conception, c'est réfléchir à l'intégralité du processus de création d'une solution numérique.
Alors vous nous donniez justement cet exemple de ce processus physique pour essayer de faire des économies à ce niveau-là, mais on sait aussi que l'utilisation d'Internet aujourd'hui, partout dans le monde, ça participe également au réchauffement climatique. On le sait peu, on en parle assez peu, mais avec l'utilisation de cloud pour le stockage de données, pour les entreprises, les particuliers également, est-ce que vraiment c'est une solution vertueuse pour l'environnement? Voilà. Alors, c'est cloud. Est-ce que le numérique est vraiment l'utilisation du numérique est vraiment la solution?
Alors breaking news.
La grande question.
Breaking news. Oui, effectivement, le numérique consomme de l'énergie. Bon, ça, on n'a pas trop le choix. Et là encore, deux leviers.
Toutes les baies techniques, etc.
Les clouds, les salles blanches, même les appareils numériques. Alors, ça consomme de l'énergie en un, et en deuxième lieu, ça consomme aussi du matériel, des terres rares qui sont pas évidentes à disponibiliser. Mais là, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Sur la partie énergie.
La conception des voitures électriques, entre autres. Enfin bon, ça, c'est un autre.
Même un portable.
Ou un portable. Voilà. Ça, c'est un autre sujet qu'on pourra développer une autre fois.
Ouais. Alors, pour revenir au sujet d'aujourd'hui, qui est l'énergie, là encore, deux leviers. Si le processus qu'on numérise, en fait, il malgré l'énergie qu'on va utiliser pour le faire tourner, s'il réalise un gain d'énergie d'un ratio 2, 3, 4 ou même 20, du coup, on aura réalisé une efficience énergétique. Typiquement, là, tout à l'heure, je parlais de la dématérialisation des visites d'inspection. Ça coûte une certaine énergie. Il faut un modèle 3D, tout ça. C'est sûr que pour héberger ça, pour faire tourner ça, ça demande un peu d'énergie. Mais ça demande moins d'énergie que de réunir les personnes 5-6 fois de suite pour faire la visite. Donc là, le premier niveau, c'est à partir du moment où on gagne de l'énergie. Il y a quand même un gain. Il faut avoir une approche un peu holistique et puis faire le calcul à la fin. Mais là, il y a un gain. Enfin, quand même, il y a un gain qui peut être d'un ratio important dans certains cas. Donc ça, c'est le premier niveau, c'est quand on travaille sur le processus. Et puis après, le deuxième niveau, c'est quand on travaille sur la promesse même du numérique. C'est-à-dire que le numérique peut amener d'autres solutions, en fait, à la sobriété énergétique. Et c'est ce que sont en train de réfléchir les GAFAM et en particulier ceux de Californie. Ils sont en train de se poser la question de la fin de l'abondance, comme le citait notre président.
Notre président il y a quelques jours.
Eux, ils réfléchissent, ils se disent OK, on vit dans un monde fini, donc on a une production de produits finis, et pour autant notre croissance elle repose sur un mécanisme de désir infini. Donc comment numériquement parlant, on peut peut résoudre ça. Et l'idée, c'est de dire la dématérialisation des processus, ça suffit pas. Il faut dématérialiser la croissance. Hein, d'où le métaverse, d'où les préquels qu'on connaît qui sont la blockchain, les NFT, enfin ce genre de technologies qui demain vont permettre, vont peut-être permettre, parce que c'est une solution, il y en a peut-être d'autres, hein, qui vont peut-être permettre de dématérialiser la croissance, la croissance, d'avoir un monde physique où on pourrait réaliser une certaine frugalité, une certaine sobriété avec ses désirs principaux assouvis, et puis un monde numérique où là les désirs inassouvis qui sont le moteur en partie de la croissance pourraient continuer à tourner avec de l'achat, avec de la dématérialisation d'objets, de la dématérialisation de services. Et puis là, du coup, on aura, comme vous le disiez tout à l'heure, on a une consommation énergétique pour faire tourner le cloud de base pour mettre en opération tout ça. Mais après, on voit bien que la croissance, elle sera complètement infinie au niveau de la production d'éléments numériques.
Bon, il y a plusieurs solutions en tout cas qu'on peut optionner. Vincent Gaffard, je reviens vers vous. Est-ce que moins de consommation d'énergie pour les Français, pour les entreprises, est-ce que ça signifie moins de business pour les entreprises du secteur de l'énergie comme Total Energy concrètement? Si on incite les gens à consommer moins d'essence, ça fait moins de revenus pour Total Energy, c'est ça que je veux dire.
On est tout à fait d'accord, moins d'énergie égale moins de business. Alors pour autant, ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une phase où il y a des bouleversements assez profonds dans le secteur de l'énergie. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs qui se repositionnent, certains acteurs qui historiquement étaient des énergéticiens viennent se positionner sur la mobilité. Vous avez aussi des acteurs, par exemple, du monde des déchets qui viennent se positionner sur la production d'énergie, puisque le déchet devient une source valorisable sous forme d'énergie. Donc on assiste de manière globale à un bouleversement.
Et une transformation vraiment du secteur.
Voilà, transformation du secteur qui incite de se poser les questions sur le positionnement sur la chaîne de valeur, où est-ce qu'on se positionne en amont, en aval. Deuxième élément quand même que je voudrais rappeler, Total Energy est une compagnie internationale. Aujourd'hui, on représente un peu plus de 3% des besoins mondiaux en énergie fossile et on satisfait un peu moins de 1% des besoins mondiaux en énergie. Qu'est-ce que cela signifie pour une entreprise comme la nôtre? Ça signifie que nos perspectives de croissance par gain de part de marché est très importante. Donc oui, moins de business au global, par contre, des opportunités fantastiques pour des énergéticiens comme Total Energy. L'élément aussi, c'est que il faut par contre être capable de respecter les fondamentaux d'un marché qui est très volatile. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ceux qui vont être les grands gagnants de cette transformation, ça va être les entreprises qui ont une discipline financière très stricte, qui va leur permettre d'assurer leur rentabilité, surtout d'investir. Faut voir qu'on est face à un mur d'investissement. Par exemple, rien que sur le contexte français, l'ADEME a chiffré à plus de 1000 milliards d'euros les investissements qui doivent être consentis dans la transition énergétique d'ici 2060. Donc la discipline financière, c'est un élément incontournable. Le deuxième élément, c'est la capacité à innover et à s'adapter. On voit que les solutions technologiques évoluent très fortement. Il va falloir les intégrer dans nos modèles d'affaires très rapidement. Il y a aussi évidemment une intransigeance sur les enjeux de sécurité. On le voit, on manipule, que ce soit Total Energy ou EDF, des outils industriels qui ont des enjeux de sécurité très importants.
Donc François Gonzi qui fait oui de la tête là.
Oui, c'est un des fondamentaux de nos activités, assurer la sécurité de nos installations. Et évidemment, le dernier élément qui est sans doute l'un des plus importants dans le contexte actuel, c'est d'intégrer tous les enjeux de la transition énergétique et du développement durable dans nos activités. Pour être très clair, aujourd'hui, moi j'ai le sentiment que Total Energy coche toutes ses cases, celle de la discipline financière, de la rentabilité, de la capacité à s'adapter, de l'engagement dans le développement durable et vers la neutralité carbone. Donc je suis très optimiste sur l'avenir de Total Energy, y compris dans un contexte où potentiellement la demande pourrait diminuer.
Ouais. Alors vous le disiez un petit peu plus tôt, il y a une transformation du secteur chez Total notamment. Alors justement, Total maintenant c'est Total Energy, c'est le nom du groupe a évolué. C'est dû à une évolution des activités du groupe vers des énergies décarbonées justement. Qu'est-ce qu'on disait là?
Alors pour le vivre de l'intérieur, moi j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui est ancré chez nous depuis longtemps. Après, c'est vrai qu'on s'est rendu compte que
beaucoup de personnes qui disent Total quand même encore.
Oui, il y a beaucoup. Oui, tout à fait. Mais ça,
c'est très récent. Après, ça date de quand d'ailleurs?
De milieu d'année dernière, été 2021. Non, effectivement, il y a du temps pour que les gens s'approprient. Après, si vous voulez, comme je vous le disais, la stratégie et l'engagement de Total Energy est un engagement depuis de plus longue date. On s'est par contre rendu compte effectivement que c'était peut-être pas suffisamment visible vis-à-vis de nos parties prenantes. Et donc l'objectif du changement de nom, c'était surtout de donner de la visibilité à notre stratégie. Donc après, si vous voulez, ce qui est important aussi, c'est que nous, on considère qu'il y a à la fois des enjeux environnementaux et sociaux. On le voit aujourd'hui, hein, c'est-à-dire que la problématique du coût doit aussi être considérée. Et ça, c'est quelque chose que nous intégrons pleinement. Alors notamment, nous nous basons sur les objectifs de développement durable des Nations Unies suivant quatre axes. L'énergie et le climat, la protection de l'environnement, la création de valeur pour la société et le bien-être des personnes. Donc ça, si vous voulez, c'est une chose très importante. On le voit aujourd'hui, on a sans doute un peu négligé ces aspects coûts et le fait que la transformation pouvait être très compliquée à vivre, notamment pour les ménages et les citoyens et citoyennes. Et donc aujourd'hui, c'est là tout l'enjeu de la transformation et de la transition énergétique, c'est d'être capable de garantir cet équilibre entre des réponses aux enjeux environnementaux. On est tous d'accord, il faut y aller, la neutralité carbone 2050 maximum. Mais par contre, il faut le faire en sorte que ce soit suffisamment équilibré pour que cette transition soit une transition juste.
Pour finir, François Gonzi, quel conseil simple vous pourriez donner à nos auditeurs pour être plus sobre en énergie à la maison et à la maison pour les particuliers et en entreprise?
Vous voulez du concret, hein, c'est ça?
Ouais.
Alors pour rebondir sur la discussion sur le numérique, arrêtez de regarder des vidéos de chats. Ça, c'est voilà. Non, mais plus sérieusement, sur les choses très concrètes, les gestes vraiment basiques de sobriété.
Parce que regarder
de court
des vidéos,
terme.
Regarder des vidéos sur YouTube, sur des plateformes,
ça consomme énormément d'énergie. C'est aujourd'hui le gros.
Le streaming aussi.
C'est le gros du trafic internet actuel. Hein, c'est de regarder des vidéos de chats. Je suis désolé.
Quelqu'un de votre entourage qui regarde beaucoup de vidéos de chats, je crois.
Peut-être. Non, mais plus basiquement, après cette petite virgule semi-humoristique, il y a, on va dire, des gestes simples pour cet hiver. Hein. Il y a simplement mettre le chauffage à 19 quand on a un particulier.
Ça a été recommandé par le gouvernement il y a quelques jours.
Exactement. Donc ça, c'est assez simple. Je pense qu'on survit assez simplement à 19. Après, si on va voir ce que doivent faire les entreprises et ce que peuvent faire les entreprises, on va dire, je vais différencier deux choses, deux actions simples. Si on est dans le monde de l'industrie, hein, je citais tout à l'heure l'industriel de la moutarde, là, il y a beaucoup de choses à faire. Les industriels ont déjà fait énormément de choses, hein, sur leur performance. Aujourd'hui, il y a encore un travail possible sur les moteurs. En fait, chez les industriels, il y a pas mal de pompes, de moteurs électriques. Il y a beaucoup de choses à faire sur ces moteurs-là et pour les remplacer petit à petit, et ça améliore considérablement leur performance énergétique. Et maintenant, je vais donner un autre exemple qui peut être valable chez une partie industrielle et pas mal dans le monde du tertiaire de bureau. En fait, le monde du tertiaire de bureau, c'est un vrai sujet parce que la consommation énergétique pèse pas beaucoup dans le fonctionnement, en coût, dans le fonctionnement. Donc, c'est presque généralement, ça fait partie des dépenses impalpables, or non négligeables quand on en fait la somme au niveau d'un pays. Et bien, simplement, faites un effort de lancer une mesure de calorifugage de vos conduits de clim, généralement, donc de froid et de chaud. Le calorifugage, en ce moment, c'est énormément sponsorisé, ça coûte pas très cher, et c'est une mesure très, très simple et très efficace pour réduire les consos.
Quand on voit je repense à quelque chose, il y a quelques années, bon, c'est pas en Bourgogne, mais à La Défense, il y a toutes ces tours, la nuit, qui étaient encore éclairées, les bureaux, on n'éteignait pas la lumière. C'est aujourd'hui, c'est quelque chose d'intégré. On éteint la lumière quand on quitte le bureau le soir.
Alors, soit on éteint la lumière, soit à minima, on investit juste ce qu'il faut pour mettre des capteurs, pour dire quand il n'y a plus personne dans les bureaux, la lumière s'éteint.
Voilà. Donc, et on éteint la clim et le chauffage aussi.
Exactement. Ouais. Même dans des studios de radio.
Non. Aussi également. Bon, il y a les machines, voilà, qui produisent de la chaleur aussi autour, ce qui fait que malheureusement on est obligé de maintenir la clim allumée. Pour finir, une question, voilà, pour ouvrir un petit peu, question d'ouverture pour finir que je vous pose à vous trois. Comment de grandes entreprises du secteur de l'énergie ont-elles intégré l'enjeu climatique? Je viendrai auprès de vous, Yannick Louvet, juste après, mais peut-être pour finir.
Je peux prendre ce que vous voulez. Comme vous voulez.
Bon, je peux commencer.
Pas de soucis, allez-y.
Oui, enfin, effectivement, il faut l'intégrer, je dirais, dans toute la stratégie de l'entreprise. Hein, l'enjeu climatique aujourd'hui, on a une feuille de route qui est claire, c'est d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Donc, ça signifie à la fois des comportements exemplaires au sein de l'entreprise. Hein, on le disait. Il y a plusieurs éléments que je voudrais souligner. On va annoncer notamment, du reste, un plan d'investissement de plus de 1 milliard d'euros d'ici la fin du mois de septembre pour l'efficacité énergétique sur nos sites industriels. Donc la première chose, c'est d'être exemplaire chez soi, hein. Donc d'autres petits exemples simples, l'utilisation du plastique à usage unique a été bannie dans nos dans tous nos bureaux depuis plusieurs années. Voilà, il y a des choses. Première chose, c'est montrer aux gens que nous-mêmes nous sommes acteurs et que dans notre comportement nous faisons ce que nous disons. Deuxième chose, évidemment, accompagner cette transition énergétique, donc accompagner aussi nos clients. On l'a dit au cours de l'émission, c'est-à-dire vous venez de le rappeler, c'est-à-dire tous les gestes qui peuvent permettre à nos clients de réduire leur consommation énergétique et d'avancer. Et ensuite, évidemment, on essaye de se développer beaucoup sur tout ce qui concerne les énergies renouvelables. Là, Total Energy aujourd'hui a pour ambition de rentrer dans le top 5 mondial des producteurs d'électricité d'origine renouvelable d'ici 2030. Ça veut dire des investissements massifs. Hein. On parle aujourd'hui de cette année 4 milliards d'euros d'investissements dans le renouvelable et l'électricité chez Total Energy. Donc voilà, ça veut dire vraiment, je dirais, se mettre en ordre de marche et suivre la stratégie qui a été définie pour atteindre cette neutralité carbone et répondre aux enjeux du réchauffement climatique.
Entendu. François Gonzi, en quelques mots, votre regard.
Eh bien écoutez, nous, ce qu'on fait, c'est on agit sur nos émissions directes en tant qu'industriel. Donc là, pour donner deux exemples simples, on a dans les 10 dernières années, on a fermé assez massivement des centrales qui fonctionnaient au charbon et au fioul pour investir massivement dans les renouvelables. Donc on a fermé à peu près 20 centrales au niveau mondial, mais beaucoup en France et beaucoup au Royaume-Uni qui fonctionnent au charbon et au fioul et qui pèsent à peu près 4 gigawatts. Et on a ouvert à peu près un peu plus de 10 gigawatts de nouvelles centrales. Renouvelable.
Même si récemment, il y a des centrales au charbon qui ont été réouvertes. Pas d'EDF. en Allemagne notamment.
En Allemagne ou pas très loin dans le Grand Est à Saint-Avold pour passer la pointe de cet hiver. Il y a eu une demande du gouvernement de réouvrir une centrale. Donc ça c'est un sujet à agir sur ces émissions directes. Alors je vais donner un autre exemple là pour le coup qui concerne bien Bourgogne-Franche-Comté puisqu'on est aussi un très grand exploitant de réseaux de chaleur dans pas mal de villes et donc on a passé massivement ces réseaux de chaleur à la biomasse. Aujourd'hui c'est plus le gaz, c'est la biomasse l'énergie principale des réseaux de chaleur dans les villes de Bourgogne-Franche-Comté. Et puis pour finir, c'est les émissions directes, on agit, et finalement c'était le thème de l'émission, sur les émissions indirectes, c'est-à-dire quelles sont les émissions qui sont générées chez nos clients. Et donc là, on les accompagne pour faire les bons investissements aux bons endroits. Et ça, finalement, on l'a pas mal brossé autour de cette émission.
Entendu. Merci. Merci à vous deux, Vincent Gaffard et François Gonzi. Et puis pour finir, je me tourne vers vous, Yannick Louvet. Je vous oublie pas, dans le secteur du digital, qu'est-ce qu'on peut... On a déjà évoqué le sujet ensemble tout à l'heure, mais quelle peut être la stratégie des acteurs de votre secteur pour être plus sobre en énergie?
Nous, notre stratégie intrinsèque, ça va être l'innovation. Ça veut dire aller chercher innover, tester, expérimenter les nouvelles plateformes de demain pour faire en sorte que, là tout à l'heure je parlais par exemple de dématérialisation de la croissance, mais pour faire en sorte que ça soit pas une plateforme américaine ou une plateforme chinoise qui demain fasse l'investissement et fasse la réussite de ce genre de nouveau paradigme. Nous, on est disruptif par essence, donc on pense dans le numérique que il va y avoir des solutions next generation, et il faut qu'on innove pour faire en sorte que demain toutes les transactions se passent pas sur le métaverse de Meta par exemple, mais qu'on ait des solutions aussi européennes et qu'on ait pu tester mis en production quelques plateformes souveraines.
Entendu. Merci beaucoup Yannick Louvet, merci encore à vous Vincent Gaffard et François Gonzi. Et évidemment le sujet sera développé le 29 septembre prochain lors de la rencontre des entrepreneurs de France de Côte d'Or. Ce sera à la Cité de la Gastronomie de Dijon. Bonne journée à tous.
Bonne journée,
merci.